Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canut info. Ah,
ah,
je sais pas, mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis, contre la colonie et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec sur la tête. Prends mon stage dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi?
C'est Camille l'info.
Canu 102.2. Canu info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas. Canu info du vendredi. Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, sur le 102.2. Il est 19h04 et c'est bien sûr donc l'heure des informations. Informations à deux jours du résultat des présidentielles. On vous a concocté une émission, alors pas du tout spéciale présidentielle, mais sympa quand même. On va commencer par des blocages et des manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui à Lyon et à Paris. Blocages qui ont été faits par des lycéens ce matin.
Et ensuite, on ira voir du côté de Vaux-en-Velin, où une école est occupée tant qu'il le faudra.
Et ensuite, on vous parlera des formes de résistance par rapport à la fin des présidentielles.
Et puis, on vous lira un texte de Nietzsche, des mouches du marché.
On vous fera ensuite écouter un micro-trottoir qui a le joli titre de « L'abstention, le barbecue et moi ».
On partira ensuite voir comment nos amis zapatistes peuvent nous aider à penser ce merdier électoral.
Et des amis zapatistes, on en a rencontré un, ou plutôt un ami des zapatistes, c'était il y a 3 semaines à Dijon, dans le quartier autonome et libre des Lentillères, et il nous raconte un petit peu comment ça se passe là-bas politiquement.
Voilà. Et on finira par le traditionnel agenda finalement.
Eh ben oui, tout à fait.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
les
plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Vous voyez bien, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous êtes en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes, en chantant résiste.
Et oui, comme le dit notre jingle, on est souvent obligé de résister au maire. Alors, on va directement aller du côté de l'école Grand Clément, dont on vous parle souvent parce qu'il y a des fortes mobilisations, notamment pour les enfants à la rue, et donc vous lire le dernier communiqué du collectif Jamais sans toi. Devant l'immobilisme des autorités compétentes, dont M. Dussurgey, maire socialiste de Vaux-en-Velin, et suite à la situation d'urgence, le collectif Jamais sans toi a débuté l'occupation du groupe scolaire Grand Clément depuis le mardi 2 mai et jusqu'à obtention de solutions cohérentes. En effet, depuis le 10 mars, à l'école Grand Clément de Vaux-en-Velin, malgré des demandes et relances aux autorités compétentes, des enfants sont toujours à la rue. Les demandes sont simples. De faire respecter le droit à l'hébergement et le code de l'action sociale des familles, ainsi que la Convention internationale des droits de l'enfant, qui devrait leur assurer un logement. Le collectif demande donc à M. Dussurget, maire de Vaux-en-Velin, d'utiliser son pouvoir d'ouverture d'établissement en cas d'urgence et d'appliquer les consignes d'Emmanuel Cosse, ministre du Logement, qui déclarait en novembre 2016 « Sans abri, mal logés, migrants, nous devons et nous pouvons offrir à chacune et chacun un accueil digne et humain ». Le collectif Jamais sans toit de Grand Clément, en l'absence de solution, après avoir hébergé ses familles à l'hôtel, dans le gymnase Paul Roux et chez les habitants et les habitantes du village, et devant l'immobilisme des institutions compétentes, décide de mettre à l'abri ses familles dans le groupe scolaire Grand Clément, du coup à partir de ce mardi 2 mai, et donc jusqu'à obtention d'une solution cohérente pour ses enfants. Une autre famille sort du CADA à partir du jeudi 4 mai, sont deux adultes et deux enfants. La lutte avec ces familles continue et il sera mis en place toutes les actions qui semblent légitimes afin de mettre ces personnes à l'abri. A noter que les services de la mairie ont changé les codes et l'alarme et ont refusé de les donner jusqu'au corps enseignant. On souhaite évidemment bonne chance à la lutte de toutes ces personnes-là autour de l'école Grand Clément et de toutes les autres luttes pour les personnes à la rue.
Et donc pour insister quand même, la mairie a changé les codes et alarmes pour que les instituteurs et institutrices ne puissent pas abriter les familles une fois que les cours sont terminés, ne puissent plus rentrer dans l'école.
Tout à fait. Et à Lyon, toujours dans les lycées cette fois, ce matin, trois lycées, les lycées Saint-Exupéry, Récamier et Ampère, ont tenté de répondre à l'appel national à bloquer les lycées contre Le Pen et Macron. Alors cet appel national, tellement on est des investigateurs et des investigatrices hors pair au Canu Info du vendredi, je l'ai sous les yeux, donc je vais vous le lire. Il dit ceci. Rien d'étonnant, le premier tour des élections a ouvert les portes du second à Le Pen et Macron. D'un côté, le fascisme et de l'autre, le libéralisme, même si personne n'est dupe et que tout le monde sait bien que le premier permet au deuxième de se maintenir en jouant sur les peurs collectives de voir l'extrême droite au pouvoir. Les élections n'ont rien de sérieux, car c'est la nature même du système électoral qui permet une stabilité en jouant sur ce que les médias appellent les extrêmes, alors qu'il n'y a que des conceptions de la vie en société différentes que l'on pourrait résumer ainsi. Le fascisme, le libéralisme, qu'il soit écologique, social ou dur, puis les révolutionnaires qui essayent d'agir au quotidien et localement. Pour nous, la question n'est donc pas strictement celle de voter ou pas, mais d'agir dès à présent pour prévenir Macron que nous sommes prêts et capables de nous mobiliser massivement, s'il ose s'en prendre aux acquis sociaux, couvrir les flics racistes qui tuent, cracher sur les travailleurs, déloger la commune de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, renforcer la répression contre les migrants, bref, mener une politique dans la droite ligne de ses prédécesseurs. C'est pour ces raisons que nous pensons plus que nécessaire de bloquer nos établissements ce vendredi 5 mai et de continuer à amplifier la mobilisation contre cette farce du second tour où dans tous les cas on se retrouvera dans la rue pour scander notre dégoût d'un système qui se meurt tous les jours un peu plus. Voilà, donc c'était pour répondre à cet appel national que les lycéens lyonnais ce matin ont tenté de bloquer ces trois lycées, sauf qu'à cause d'une forte présence policière, il y a seulement le lycée Ampère qui a réussi un véritable blocus. Du coup, les lycéens et lycéennes de Saint-Exupéry les ont rejoints pour ensuite partir en manif spontanée vers le lycée Récamier, où se déroulaient des contrôles d'identité aléatoires.
Les lycéens... Récamier, c'est à côté de Perrache, c'est ça ?
Ouais. Peut-être. Investigateur hors pair. Et donc à Récamier, à côté de Perrache, se déroulaient des contrôles d'identité aléatoires. Donc ils sont tous allés là-bas pour les soutenir. Et ils sont ensuite partis par les quais du Rhône. Sauf que voyant un important dispositif policier se mettre en place, ils ont fait demi-tour vers la place de l'Opéra où ils se sont finalement fait nasser par les flics. Donc au bout d'une trentaine de minutes, les flics les ont quand même laissés partir, mais deux par deux et en contrôlant leur identité. À noter aussi que l'article assez partiel du Progrès raconte que seuls 30 élèves étaient dans la rue et uniquement contre le Front National, en omettant donc une bonne partie de la matinée de mobilisation. Et à Paris, c'est une dizaine de lycées qui étaient mobilisés. La manifestation lycéenne est partie de Bastille en direction de la place d'Italie et elle a très vite, elle aussi, été bloquée par les forces de l'ordre sur le boulevard. Du coup, après plusieurs heures d'attente dans la nasse, les manifestants ont pu quitter donc cette nasse, mais pareil, seulement en compte-gouttes, après des fouilles minutieuses de leurs affaires et les relevés de leur identité aussi. Voilà, on passe à l'autre rubrique.
Canu Info, vendredi. Tu vois la grosse crotte avec du caviar. Ah ouais, oui. Du caviar, ouais. Des crottes de. La présidente.
Oh, chien.
Rubrique présidentielle.
Bah parce que souvent je critique, nous on connaît pas bien, mais les présidents, c'est une espèce introduite il n'y a pas longtemps. Hein. C'est récent ce truc-là. Avant il y en avait quasiment nulle part, maintenant t'en vois partout dans le monde ces trucs.
Et puis ça fait des ravages là, c'est pas que ça se reproduit sans arrêt. Nous chez nous c'est tous les 5 ans qu'il y en a qui apparaissent, ça détruit tout plein de formes de goût et tout, c'est vraiment de la merde.
Ouais mais je m'aime pauvre, on va foutre nous des présidents, la vieille carte du président où laisse à manger à nos chats, ça manque.
Vas-y, mange les chiens, mange les présidents.
Ouais, bien.
Canu Info vendredi, rubrique présidentielle.
Ainsi donc, la voilà bientôt finie cette élection, cette fanfaronnerie, cette catharsis institutionnalisée, cette prise en otage d'une population qui, jusqu'au plus déterminé de ses éléments contestataires, aura été sommée de prendre parti, que ce soit pour ou contre un ou des candidats, ou pour ou contre le scrutin lui-même. Il faudra bien vite reconnaître qu'effectivement, elle n'a pas eu lieu, cette élection, ou si peu. Le pire ayant été encore une fois écarté, tout devrait maintenant pouvoir continuer, comme si rien ne s'était passé. Il est toutefois loisible, de ce fait même, de spéculer dès à présent sur les occasions de confrontation qui ne manqueront pas de se présenter dans les mois qui viennent, les événements du 1er mai parisien ayant une nouvelle fois confirmé l'approfondissement de la conflictualité entre les tenants du naufrage et ceux, de plus en plus nombreux, qui le refusent en bloc.
Mais il est à cet égard une méprise dont il conviendrait de se garder. Cette escalade ne saurait constituer en elle-même un motif de réjouissance. Il serait tout au contraire plus réjouissant de sentir enfin le goût de la victoire, qu'il suffise de dire « nous ne voulons pas d'aéroports, d'autoroutes, de parcs d'attractions, de capitalisme, de LGV, de centrales nucléaires, d'Uber, de lois travail, voire même pas de travail du tout, pour que partout reculent les forces qui s'imposent à nous ». Plus réjouissant de dire « pas de fachos dans nos quartiers » ou « flics hors de nos vies » et de voir ceci effectivement disparaître de notre réalité. Plus réjouissant de se contenter de décréter immédiatement la commune pour que celle-ci advienne effectivement sans entrave. Plus réjouissant de pouvoir décider ici et maintenant, partout et tout de suite, d'habiter, de construire, de vivre notre monde selon nos désirs, et cela sans que le pouvoir, le gouvernement, les églises, la police, en somme toutes les forces qui incarnent depuis si longtemps les formes de la domination, n'usent de tout l'arsenal répressif à leur disposition pour nous y empêcher.
Car, sauf à tomber dans le piège scandaleux du riot porn ou à souffrir d'un goût prononcé pour tout ce qui confine à la douleur, il n'y a rien de réjouissant à voir ses amis se faire tabasser par des flics qui contentent ostensiblement leur penchant sadique. Rien de réjouissant à voir meurtri les chairs, couler le sang, briser les os, à entendre les cris de douleur, les hurlements de panique de ceux qui se retrouvent acculés, piégés, nassés. Rien de réjouissant à se savoir mis en joue par quelque arme que soit, fût-elle non létale, à voir un soir un ami tomber parce qu'elle était peut-être quand même un peu létale en fin de compte, à entendre exploser les grenades de désencerclement, à pleurer et étouffer sous les gaz ou à devoir porter un masque à gaz dans ces rues pourtant tant de fois parcourues à visage découvert. Rien de réjouissant non plus dans les arrestations, les gardes à vue, les comparutions immédiates, les condamnations qui continuent de pleuvoir des mois après les événements qui leur servent de justification. Rien de réjouissant, au bout du compte, à devoir affronter ceux qui, si les chemins de nos vies respectives avaient été autres, auraient pu faire, qui sait, de joyeux compagnons de boisson.
Mais parce que le statu quo entériné par les élections ne signifie rien d'autre que la poursuite de cette fuite en avant vers la domination de l'économie et la décomposition de la société qui caractérise notre temps, il faudra bien se résoudre à ne pas se laisser faire et donc, à contre-cœur, il faut le dire, à affronter la répression. Et c'est bien par le seul fait d'incarner cette résistance, de porter dans ce qui reste d'espace public le refus de se laisser écraser par ceux qui ravagent chaque jour un peu plus le monde dans lequel nous habitons, le refus de se laisser conduire au désastre par ceux-là même qui prétendent nous en sauver, en constatant avec fierté notre présence réciproque, en se tenant côte à côte et en appréciant la force qui se dégage de la communauté de cette prise de position, qu'il sera possible d'apprécier ce qu'il y a encore de réjouissant dans la confrontation.
Nietzsche est mort. Le vieux lui a survécu. Nietzsche est mort.
Où cesse la solitude, commence le marché. Et où commence le marché, commence aussi le vacarme des grands comédiens et le bourdonnement des mouches venimeuses. Dans le monde, les choses les meilleures ne valent rien sans quelqu'un pour les mettre en scène. Le peuple appelle ces metteurs en scène de grands hommes. Le peuple comprend bien peu ce qui est grand, c'est-à-dire ce qui est créateur. Mais il a un flair pour tous les metteurs en scène et pour tous les comédiens des grandes causes. C'est autour des inventeurs de valeurs nouvelles que tourne le monde. Ils tournent de façon invisible, mais la foule et la gloire tournent autour des comédiens. Tel est le cours du monde. Le comédien a de l'esprit, mais un esprit sans conscience morale. Il croit toujours à ce qui lui permet le plus d'imposer sa façon de croire, à lui-même. Demain, il croira en une chose nouvelle, et après-demain en une autre, plus nouvelle encore. Il a l'esprit prompt, tout comme la foule, et il est d'humeur versatile. Renverser, il appelle cela prouver. Rendre fou, c'est ce qu'il appelle persuader. Et de toutes les raisons, le sang lui semble la meilleure. Une vérité qui ne se glisse que dans les oreilles fines, il l'appelle mensonge et néant. En vérité, il ne croit qu'en des dieux qui font grand tapage dans le monde. La place du marché est pleine de bouffons solennels, et la foule se glorifie de ces grands hommes. Ils sont pour elle les maîtres du moment. Mais le temps les presse, aussi te presse-t-il, et de toi, ils veulent savoir si c'est oui ou si c'est non. Malheur à toi, veux-tu placer ta chaise entre le pour et le contre? Ne sois pas jaloux de ces intransigeants qui te pressent, toi qui aimes la vérité. Jamais encore la vérité ne s'est accrochée au bras d'un intransigeant. À cause de ces esprits hâtifs, retourne à ta sécurité. Ce n'est qu'au marché que l'on est assailli par oui ou par non. Longues sont les expériences que font les puits profonds. Il leur faut attendre longtemps jusqu'à ce qu'ils sachent ce qui tombe dans leur profondeur. C'est à l'écart du marché de la gloire que se passe tout ce qui est grand. C'est à l'écart de la place du marché de la gloire qu'ont de tout temps habité les inventeurs de valeurs nouvelles. Fuis dans ta solitude, je te vois harcelé par les mouches venimeuses. Fuis vers les contrées où souffle un air rude et fort. Fuis dans ta solitude, tu as vécu trop près des petits et des pitoyables. Fuis leur vengeance invisible, contre toi ils sont rien que vengeance. Ne lève plus le bras contre eux, ils sont innombrables. Et ce n'est pas ta destinée d'être un chasse-mouche. Ils sont innombrables ces petits et ces pitoyables. Et il y a de nobles architectures que des gouttes de pluie et de mauvaises herbes suffisent à ruiner. Tu n'es pas une pierre, mais déjà toutes ces gouttes t'ont creusé. Tu vas te briser, tu vas éclater à force de gouttes. Je te vois fatigué par des mouches venimeuses, je te vois égratigné en sans endroit, et ta fierté ne veut pas même s'en irriter. En toute innocence, c'est ton sang qu'ils te réclament, c'est de sang que leurs âmes exsangues ont soif, et c'est pourquoi ils te piquent en toute innocence. Mais toi qui es profond, tu souffres trop profondément de petites blessures, et avant même que tu ne sois guéri, le même ver empoisonné s'est mis à ramper sur ta main. Tu es trop fier pour tuer ces gloutons, mais prends garde que cela ne te devienne fatal de supporter toutes leurs fielles injustices. Ils bourdonnent autour de toi en te louant, ils veulent la proximité de ta peau et de ton sang. Ils te flattent comme un dieu ou comme un diable, ils gênent devant toi comme devant un dieu ou un diable. Qu'est-ce que cela peut bien te faire? Ce sont des flagorneurs et des géniards, pas plus. Souvent aussi, ils font les aimables avec toi. Mais cela, ce fut toujours l'astuce des lâches. Oui, les lâches sont malins. Ils pensent beaucoup à toi en leur âme étroite. Tu leur es toujours un motif de suspicion. Tout ce à quoi on pense beaucoup finit par devenir suspect. Ils te punissent pour toutes les vertus et ils ne te pardonnent par principe que tes bévues. Parce que tu es doux et d'âme juste, tu dis, ils sont innocents de leur petite existence, mais leur âme étroite pense, tout ce qui existe de grand est coupable. Même si tu leur es indulgent, ils se sentent encore méprisés par toi, et ils te rendent les bienfaits par des méfaits cachés. Ta fierté muette n'est jamais de leur goût. Ils jubilent quand, pour une fois, tu es suffisamment modeste pour être vaniteux. Ce que nous reconnaissons dans un homme, nous l'enflammons aussi, alors méfie-toi des petits. Devant toi, ils se sentent petits, et leur bassesse rougeoie et brûle contre toi en une vengeance invisible. N'as-tu pas remarqué que souvent ils sont devenus muets quand tu t'approchais d'eux, et que leur force les quittait comme la fumée s'échappe d'un feu qui s'éteint? Oui, mon ami, tu es la mauvaise conscience de tes prochains, car ils sont indignes de toi. C'est pourquoi ils te haïssent et aimeraient bien te sucer le sang. Tes prochains seront toujours des mouches venimeuses. Ce qu'il y a de grand en toi, cela même doit les rendre plus venimeux et les rendre toujours plus semblables à des mouches. Mon ami, tu n'as pas solitude. Et là où souffle un air rude et fort, ce n'est pas ta destinée d'être chasse-mouche. Ainsi parlait Zarathoustra.
quoi dimanche? Canu Info du vendredi. Micro trottoir. Qu'est-ce que tu vas faire dimanche?
Dimanche, je vais aller voter et voir des spectacles.
Et si je fais un barbecue dans le Pilat, tu viens ou pas?
Franchement, non. Je vais aller voter. Si après, si tu fais un barbecue, je peux venir, mais je vais aller voter quand même. Je viendrai le soir ou le midi, mais à un moment, j'irai voter.
Tu fais quoi dimanche?
Je ne sais toujours pas.
Et si je te propose un barbecue dans le Pilat, tu viens?
Ah, c'est assez tentant, mais je mange très peu de viande.
Ah, mais on peut faire du... Si c'est, mettons que ce soit du... des champignons ou des poivrons.
Ouais, ça me va. Ouais.
Ok, merci.
Dimanche, déjà, je n'irai pas voter. Parce que c'est pas un vrai choix. J'ai l'impression qu'on s'est fait voler notre élection. Personnellement, j'ai voté Mélenchon au premier tour et c'est vraiment pas passé loin. Et je choisirai pas entre le libéralisme et la casse de mes droits sociaux et le fascisme et la destruction de toutes nos libertés. Du coup, je n'irai pas voter dimanche et je pense que je vais réviser mes partiels parce qu'à force de militer, je suis dans la merde.
Alors bonjour, vous faites quoi dimanche?
Dimanche, moi je suis censé faire un foot avec mes amis. Et toi, qu'est-ce que tu fais dimanche?
Moi je sais pas, je vais peut-être rester chez moi, je sais pas, je vais peut-être aller voir jouer au foot ou je vais couper des cheveux, je sais pas trop. Je vais me balader dans la Croix-Rousse ou
vous aller prendre un verre. Vous allez pas aller du coup dans une école, un endroit où il y a un bureau de vote, un truc comme ça?
Merde!
Moi je suis étranger donc je peux pas voter. Si.
Qu'est-ce que vous allez faire dimanche?
Partir à Marseille. On profite du week-end.
Et du coup, vous n'allez pas aller à un endroit comme une école ou une salle des fêtes où on pourrait voter, par exemple?
Du coup, non, parce que l'école dans laquelle je vote, elle est chez moi, en banlieue parisienne. Ça fait un peu loin pour y retourner juste pour voter.
Et donc c'est plus sympa d'aller à Marseille que de voter, quoi?
Ah, pour le coup, oui. Il n'y a qu'à voir la différence au niveau du soleil. On va le chercher.
Je pense que j'irai faire du vélo dans les Monts du Lyonnais, un truc comme ça.
Profiter du soleil ici.
Voilà, profiter du soleil avec ma compagne, non, ça ira très bien.
D'accord. Ouais.
Je suis des potes, on va regarder Le Seigneur des Anneaux avec la direction du FN dans le rôle des orques. Super. Et qui jouera Macron et tout ça. On verra.
Ça y est, enfin, dimanche, c'est terminé. Et qu'on soit allé chez sa grand-mère boire des coups ou qu'on ait fait la grasse mat, peut-être que vers 20h, on peut sortir dans la rue et enfin parler d'autre chose. Parce que même quand c'est pas les élections, même quand c'est les élections, il y a des vitrines qui sont brisées. Comme d'habitude, on vous fait notre petite rubrique vitrine brisée. Ce soir, sans bruit de vitrine, parce que quand même, on peut pas faire la blague à chaque fois. Alors je vais faire des fausses vitrines brisées. Et donc les vitrines brisées, ça commence à Amboise. À Amboise, qu'est-ce qui se passe? C'est la permanence de Marc Lelandais, le candidat aux législatives de la divers droite, voilà, un peu LR, nanana. On a acheté une poubelle contre sa vitrine et la poubelle a réussi à rentrer dans le local. Donc bah voilà, pas de bol. À Grenoble, c'est toujours le local des candidats des Républicains qui, le 1er mai, voilà, entre la nuit de lundi à mardi, a été dégradé. Donc on rappelle que le local des Républicains avait déjà été vandalisé début avril. Et là, ça recommence. Les vitres du local ont été étoilées et des tags ont été faits sur les vitres. À Nantes, la permanence du Front National a, elle, été attaquée non pas à la barre de fer, non pas à la poubelle, mais au cocktail Molotov. Bon, au cocktail Molotov, c'est deux canettes de bière avec du produit inflammable qui ont été jetées, donc il y a un volet qui a cramé la vitrine, mais c'est déjà quelque chose. À Besançon, ou Besançon d'ailleurs, le manif du 1er mai a été bien bien costaud. Il y a eu en plus, pendant la nuit, encore une fois, de dimanche à lundi, la permanence des Républicains, qui elle aussi a été vandalisée. Un trou béant de 50 cm a été fait dans la vitrine, avec une barre de fer qui du coup est gentiment restée dans le local. Et à Nîmes, c'est pas la permanence des Républicains qui a pris, mais la statue de Nimenio II. Nimenio II, c'est qui? C'est un super torero et c'est une statue en fait. Ah non, j'ai cru qu'elle allait nous... J'ai cru qu'elle nous apprendre beaucoup de choses sur la statue du torero. Mais du coup, a priori, sur les arènes de Nîmes, il y a une magnifique statue de torero. Et du coup, ça fait plein de fois que cette statue est soit taguée, soit repeinte, soit on jette de l'acide dessus, soit on pose du papier mâché dessus. Et l'an dernier, il avait eu un super lifting, il l'avait complètement réparé, et la statue du coup était comme neuve. Mais lundi matin, très tôt, a priori, des personnes ont jeté de l'acide sur la statue, qui du coup maintenant est toute verdâtre, un peu dégueulasse. Et plus près de nous, à Lyon, le 1er mai, la manif traditionnelle est du coup un petit peu détournée de son trajet, est allée dans Saint-Jean, et à Saint-Jean, et bien le local de tatouage proche du GUD a été la vitrine a été tombée par un groupe d'une cinquantaine de manifestants qui se promenaient dans Saint-Jean
assez rapidement.
Voilà. Et donc c'était tout. Alors voilà, j'ai fait un petit résumé des vitrines brisées. Il y en a eu plein d'autres dans tous les défilés du 1er mai, mais en tout cas en dehors du 1er mai à Lyon, c'est tout ce qui s'est passé en France.
Ben merci pour cette petite
chronique. Ouais, moi j'ai une question, est-ce que le torero était dans une vitrine ou pas?
Alors non, le torero n'est pas dans une vitrine actuellement, mais maintenant il a une vitrine de barrière en métallique pour empêcher les touristes de faire des selfies avec la vitrine, okay. Avec la statue pas très jolie.
Là c'était un peu hors sujet, mais c'était pour introduire les prochaines fois la future vitrine qui est tombée. Bon, suite du voyage, on part un petit peu plus loin parce qu'on va aller rencontrer les gens qui luttent et qui s'organisent dans le Chiapas depuis de nombreuses années pour nous aider à penser ce qui se passe chez nous en lisant un petit texte qui nous vient de là-bas.
Alors voilà, on vous propose une petite lecture et suivra un entretien fait aux Lentillères avec Jérôme Bachet. Je vous le dis, l'une des tromperies de ceux d'en haut est de convaincre ceux d'en bas que ce qu'on n'obtient pas facilement tout de suite, on ne l'obtient jamais. Ils veulent nous convaincre que les luttes longues et difficiles ne font que nous épuiser et n'aboutissent à rien. Ils brouillent le calendrier d'en bas avec celui d'en haut, élections, comparutions, réunions, rendez-vous avec l'histoire, dates commémoratives, qui n'ont comme effet que d'occulter la douleur et la colère. Le système n'a pas peur des explosions si massives et lumineuses soient-elles. Si le gouvernement tombe, il en a un autre dans son panier pour le remplacer. Ce qu'il terrorise, c'est la persévérance de la rébellion et de la résistance d'en bas. Car en effet, en bas, on suit un autre calendrier, une marche d'un autre pas. C'est une autre histoire, une autre douleur et une autre colère.
Votre lutte, notre lutte, les luttes d'en bas en général dépendent de notre résistance. De ne pas nous rendre, de ne pas nous vendre, ni baisser les bras. Bon. C'est notre avis à nous, zapatistes. Il y aura sûrement des gens pour vous dire le contraire. On vous dira que c'est plus important d'être dans leur rang. Par exemple, que c'est plus important d'appeler à voter pour tel ou tel parti politique parce que ça nous aidera à trouver les absents. Que si vous n'appelez pas au vote pour tel ou tel parti, d'une part, vous aurez laissé passer une opportunité unique de retrouver ceux que vous cherchez, mais en plus, vous serez responsable de la poursuite de la terreur dans le pays.
C'est si simple de rabâcher toujours les mêmes mensonges. Ça coûte si peu de diffamer et de calomnier, puis de prêcher l'unité, l'ennemi principal, l'infaillibilité du pasteur, les insuffisances du troupeau. Il y a longtemps de cela, les apatistes ne faisaient pas de manifestations, ne criaient pas de slogans, ne brandissaient pas de pancartes, ne levaient pas le poing jusqu'au jour où nous avons marché. C'était le 12 octobre 1992, alors qu'en haut, ils célébraient la rencontre des deux mondes. C'était à San Cristobal de Las Casas au Chiapas au Mexique. Au Mexique. En guise de pancarte, nous avons des arcs et des flèches, un silence sourd avec notre devise. Sans trop de vagues, la statue du conquistador est tombée. Peu importe s'ils l'ont relevée. Ils ne répondront plus jamais la peur de ce qu'elle représentait. Quelques mois plus tard, nous sommes retournés dans les villes. Cette fois non plus, nous ne portions pas de pancartes, ni même des arcs et des flèches. Ce matin-là, à l'aube, ça sentait le feu et la poudre. Ce sont nos visages que nous avons brandis.
Après quelques mois, quelques-uns sont arrivés de la ville. Ils nous ont raconté la grande manifestation, les slogans, les pancartes, les poings levés. Bien sûr, en ajoutant à chaque fois que si les petites et les petits indiennes et indiens que nous sommes, car ils se préoccupaient de l'égalité du genre, nous survivions, c'était grâce à eux et elles qu'en ville, ils avaient empêché le génocide des premiers jours de cette année 1994. Nous, les apatistes, nous nous sommes demandé si, avant 1994, il n'y avait pas déjà un génocide, s'il avait été empêché, si ces gens de la ville nous parlaient d'une quelconque réalité, ou s'ils venaient juste présenter la facture. Nous, les apatistes, nous avons compris qu'il y avait d'autres formes de lutte.
Ensuite, nous avons fait nos propres manifestations, nos slogans, nos pancartes, et nous avons levé le poing. Depuis lors, nos manifestations ne sont qu'un pâle reflet de ce que fut cette aube de l'année 1994. Nos slogans ont la rime désordonnée des chansons des campements guerrieros de la montagne. Nos pancartes sont élaborées au moyen d'un travail minutieux pour trouver des équivalents à ce qui, dans notre langue, s'exprime en un seul mot et qui requiert, dans d'autres, les trois livres du Capital. Nos poings levés saluent plus qu'ils ne menacent, s'adressant à l'avenir plutôt qu'au présent. Pourtant, une chose n'a pas changé. Nos visages se soulèvent. Des années plus tard, ceux qui s'auto-définirent comme nos créditeurs de la ville exigèrent de nous que nous participions aux élections. Nous n'avons pas compris, car nous n'avons jamais exigé d'eux qu'ils se soulèvent en prenant les armes, ni qu'ils se rebellent contre le mauvais gouvernement, ni qu'ils honorent leur mort pour la lutte. Nous n'avons pas exigé d'eux qu'ils se couvrent le visage, qu'ils taisent leur nom, qu'ils abandonnent famille, profession ou amis en aucune façon. Mais les conquistadors modernes, en costume de gauche progressiste, nous ont menacés. Si nous ne les suivions pas, ils nous laisseraient seuls, et nous serions à leurs yeux coupables de l'arrivée au gouvernement d'une droite réactionnaire. Nous leur étions redevables, affirmait-il, et ils nous présentaient la facture en conséquence sous forme de bulletin de vote. Tiens. Nous autres abatistes, nous n'avons pas compris. Nous nous étions soulevés pour nous gouverner nous-mêmes, pas pour être gouvernés. Ils se sont fâchés.
Par la suite, ceux de la ville ont encore manifesté, scandé des slogans, levé le poing et des pancartes. Ils y ajoutent aujourd'hui des tweets, des hashtags, des likes, des tweets, des hashtags, des likes, des trending topics, des followers. Dans leur parti politique, on y retrouve les mêmes que l'on trouvait hier chez la droite réactionnaire. À leur table, les assassins et les familles des assassins s'assoient et échangent, rient et trinquent ensemble aux gains obtenus, ou se lamentent et pleurent ensemble de leur poste perdu. Pendant ce temps-là, nous apatistes, parfois nous manifestons aussi. Nous crions des slogans invraisemblables ou bien nous nous taisons. Parfois nous levons un poing ou une pancarte, le regard toujours présent. Nous disons que nous ne manifestons pas pour défier le tyran, mais pour saluer ceux qui les affrontent sous d'autres géographies, d'autres calendriers. Pour le défier, nous construisons. Pour le défier, nous créons. Pour le défier, nous imaginons. Pour le défier, nous grandissons et nous nous multiplions. Pour le défier, nous vivons. Pour le défier, nous mourons. Au lieu de faire des tweets, nous faisons des écoles et des cliniques. Au lieu de trending topics, des fêtes pour célébrer la vie et mettre la mort en déroute.
peut-être bien que vous, nous, toutes et toutes, nous obtiendrons la vérité et la justice que nous cherchons grâce à la charité d'un dirigeant entouré de gens aussi intelligents que lui, un sauveur, un maître, un chef, un patron, un pasteur, un gouvernant, et que cela se fera avec juste un minimum d'efforts comme un bulletin dans l'urne, un tweet, une présence dans une manifestation ou dans un meeting, une carte d'adhérent. Ou bien en échange d'un silence face à la farce qui mime l'intérêt patriotique là où n'existe que la soif de pouvoir. Certains ici, au sein de notre pépinière, apporteront une manière de voir qui induira peut-être une réponse positive à cette question. Nous, zapatistes, ce que nous avons appris, c'est que la réponse est non. Que d'en haut ne vient que l'exploitation, le vol, la répression, le mépris. C'est-à-dire que d'en haut, nous n'obtenons que de la douleur. Et qu'en retour, ils demandent, ils exigent qu'on les suive. Nous, zapatistes, nous disons tout simplement, n'ayez pas peur de vous retrouver sans ceux qui n'ont jamais réellement été avec vous. Ce sont eux qui ne le méritent pas. Ceux qui viennent à vous et votre douleur comme vers un spectacle étranger qui plairont ou non, mais dont ils ne feront jamais vraiment partie. Ne craignez pas d'être lâché par ceux qui ne cherchent ni à vous accompagner, ni à vous soutenir, mais juste à vous administrer, vous dompter, vous dominer, vous utiliser, puis se débarrasser de vous. Craignez seulement d'oublier votre cause et d'abandonner la lutte.
C'était donc un texte venu du Chiapas qui résonne très très bien à deux jours de l'élection présidentielle en France. On écoute tout de suite un groupe formidable de grunge lyonnais, ça s'appelle Max Lampin. Trois semaines, un mois, on ne sait plus très bien, il y avait la fête au quartier libre des Lentillères à Dijon, fête des 7 ans d'occupation, 7 ans d'occupation de plusieurs hectares de terres maraîchères, où vivent à peu près 80 personnes. C'était un chouette moment, on a pu visiter les jardins, on a également fait un petit peu la fête, on a même occupé de nouvelles terres et défriché. Et puis il y avait une exposition qui était présentée par un certain Jérôme Bachet, qui va souvent au Chiapas. Il vit en fait entre le Chiapas et la France, et il présentait des œuvres qui avaient été faites par des zapatistes du Chiapas, cette région mexicaine. Alors, des camarades d'une émission dijonnaise qu'on a rencontrée là-bas, émission super bien qui s'appelle Vacarme en Réunion, ont fait un entretien avec Jérôme Bachet. On vous passe un extrait, et si vous voulez la version complète, eh bien vous tapez Vacarme en Réunion dans un moteur de recherche et vous aurez donc cette émission avec l'entretien complet. Il revient donc, Jérôme Bachet, sur l'organisation des communautés zapatistes et sur la question de l'autonomie.
Bonjour Jérôme Bachet, c'est un plaisir pour nous en fait de vous avoir ici à Dijon et dans le cadre en fait de la fête des Lentières qui fête sa 7e année. Vous êtes ici pour présenter les œuvres qui ont été créé à l'occasion, je crois, d'un grand rassemblement ou quelque chose comme ça.
Comparte por la Humanidad, organisé par les apatistes au Chiapas, au Mexique, en juillet de l'année dernière. Rencontre à laquelle ils avaient convié des artistes du monde entier. Et à l'occasion de cette rencontre, les apatistes eux-mêmes, donc les villages rebelles du Chiapas, les habitants de ces villages ont réalisé eux-mêmes leurs propres créations, donc soit sous forme de pièces de théâtre, de poèmes, de chansons, de peintures, de sculptures. Donc ça a été une dizaine de jours très très riches, très intéressantes. Et ils ont ensuite décidé, c'est-à-dire maintenant, de faire circuler certaines des œuvres qui pouvaient circuler, donc principalement les peintures, partager leur expérience. Et leur expérience, c'est la construction de ce qu'ils appellent l'autonomie, c'est-à-dire des formes d'auto-organisation et d'auto-gouvernement qu'ils construisent depuis plus de 20 ans, depuis le soulèvement armé du 1er janvier 1994. Ce soulèvement armé a été le moyen, alors sous une forme militaire qui s'inscrit dans toute la tradition des luttes de guérilla latino-américaine, mais qui a été en fait le point de départ qui a permis de créer un espace politique, aussi de solidarité, de rencontre des luttes au niveau du Mexique et aussi au niveau international, puisqu'il y a aussi un soutien international assez important qui est vital aussi pour les apatistes. Voilà, tout cet espace-là, c'est l'espace qu'ils ont créé pour construire donc ce qu'ils appellent l'autonomie, c'est-à-dire encore une fois donc des formes d'auto-organisation et d'auto-gouvernement, puisque ça suppose en fait c'est des territoires qui se sont totalement dissociés, qui construisent leur mode de vie totalement en dehors du système institutionnel mexicain, c'est-à-dire donc en refusant tous les programmes d'assistance développés par les gouvernements mexicains et en construisant leurs propres autorités politiques, leur propre système politique. Donc ils ont vraiment construit entièrement, à partir de rien et en dehors totalement des institutions existantes, un véritable système politique qui fonctionne à trois niveaux, au niveau des villages, donc ils appellent des communautés, au niveau des communes, donc il y a 28 communes autonomes, et ces communes se coordonnent elles-mêmes en 5 zones, et chaque zone à ses propres autorités qui sont les conseils de bon gouvernement, donc qui coordonnent l'action, le développement de l'autonomie et l'action des communes autonomes. À chacun des niveaux, il y a des autorités élues et il y a des assemblées, et donc toutes les décisions se prennent par une espèce de processus d'interaction entre les assemblées, les autorités élues, et tout ça souvent avec des allers-retours entre les différents niveaux, puisque quand on prend une décision au niveau de ces grandes régions, il faut quand même consulter et faire débattre sur ces questions-là au niveau des différents villages. Donc il y a des allers-retours entre ces différents niveaux de l'autogouvernement. Mais donc c'est quand même un système assez complexe, assez élaboré, qui s'est construit en fait pas du tout comme ça d'un seul coup, mais progressivement, hein, en commençant justement par les échelles les plus locales, hein, celles des villages, et puis ensuite les communes autonomes qui sont déclarées fin 94, et puis ensuite les conseils de bon gouvernement au niveau régional qui se sont créés en 2003. Donc tout ça est un processus qui se construit pas du tout à partir d'un plan préétabli, mais voilà, dans une construction collective qui, comme ils disent, chemine en posant des questions, hein, donc avance comme ça en fonction de la manière dont l'expérience se déroule, des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, de ce qu'il faut rectifier, de ce qu'il faut toujours transformer pour s'adapter ou résoudre les difficultés qui se présentent au fur et à mesure. Donc la logique de l'autonomie, c'est ça, c'est quelque chose qui n'est pas décidé à partir d'un principe préétabli, d'un schéma préétabli, mais qui se construit dans un processus permanent en fait. L'expérience des apatistes, elle se déploie dans un territoire qui est à peu près l'équivalent de la Belgique ou de la Bretagne. Donc c'est un territoire très important, c'est très grand, donc ça pose des problèmes d'échelle qui sont évidemment pas les mêmes que si on parlait de quelques villages.
Et c'est un territoire homogène ?
Alors non, effectivement, il faut préciser tout de suite que c'est pas un territoire homogène. Dans ce territoire, il y a des communautés apatistes, il y a des communautés non-apatistes. Parfois même dans les mêmes villages, il y a des apatistes et des non-apatistes. Donc toute la population de ce territoire n'est pas entièrement ralliée à la cause zapatiste. On parle d'un territoire qui est très grand, donc dans lequel en fait il y a des régions différentes au point de vue historique, au point de vue climatique et donc au point de vue des types de cultures, donc parfois développer de nouveaux villages et aussi développer là des projets de collectifs qui sont ceux qui, en plus du travail réalisé pour l'autosubsistance des familles, des formes de travaux collectifs qui sont pour le coup nouvelles et qui permettent en fait de soutenir là aussi matériellement le fonctionnement de cette des réalisations de l'autonomie, parce que l'autonomie donc c'est une forme d'autogouvernement dont on a parlé, qui aussi rend la justice, hein, c'est aussi une dimension très importante. Et puis il y a tout un système d'éducation autonome, hein, donc ils ont construit dans tous les villages où il y a des zapatistes des écoles primaires autonomes en plus des écoles qui dépendent de l'éducation publique au Mexique, des écoles secondaires aussi, et un système de santé avec ces maisons de santé dans les villages, ces cliniques au niveau régional. Et donc là, il y a des zapatistes qui ont en charge, qui se sont formés petit à petit dans ces différents domaines de la santé, de l'éducation, pour faire avancer à la fois système d'éducation et ce système de santé. Et tout ça sans, par exemple, sans salaire. Tous les gens qui travaillent là sont pas du tout salariés. Ils peuvent éventuellement continuer à cultiver leurs propres terres. Ceux qui sont dans le domaine de la santé, c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont vraiment à plein temps dans ce travail. Mais justement, à la fois les communautés les aident, prennent en charge un certain nombre de besoins. Et puis ces formes de travail collectif dont je parlais permettent permettent d'avoir des rentrées financières en vendant un certain nombre de produits à l'extérieur, et donc de pouvoir acheter les médicaments, le matériel médical qui est nécessaire. Donc c'est sous la forme en fait d'une contribution, d'une participation à ces travaux collectifs, que l'ensemble de la population permet que fonctionne ce système de santé et ce système d'éducation, et aussi donc l'ensemble du système politique et de justice, qui pour le coup coûte pas très cher, parce que c'est des gens qui rendent ces services à la collectivité de manière rotative sur des temps relativement courts, et en continuant à leur vie par ailleurs leur vie comme ordinaire de membres ordinaires des communautés et des villages zapatistes.
Alors voilà, vous aurez remarqué, on arrive en fin d'émission, qu'on n'a pas beaucoup fait d'infos ce soir. On voulait, à travers le Chiapas, par exemple, vous proposer des alternatives. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dimanche 20h, place des terreaux, c'est tortilla et patata,
par exemple.
Et tous dans la rue, surtout au-delà de la blague. Voilà, l'agenda maintenant, peut-être.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Alors, ce soir, c'est pas théâtre, mais c'est projection à 20h30 au Café Ciné L'Aquarium. C'est rue Dumont à Lyon 4. C'est un documentaire sur le printemps arabe en Égypte en janvier 2011, avec un témoignage de fond qui a été réalisé pendant plusieurs mois. Et la réalisatrice a choisi de mener des entretiens approfondis avec des paysans dans un village à 400 km du Caire. Voilà, donc c'est un film à la fois, une réflexion sur la politique, la démocratie, et un film où les modes de vie se dévoilent. Voilà, donc ça c'est ce soir. Demain, et c'est à prix libre. Demain, c'est à prix libre aussi, c'est à partir de 21h, ça sera au squat Le Bienvenu. C'est une soirée de soutien à la caisse du collectif des sans-papiers, ainsi que au CRAP. Le CRAP, c'est le collectif Réflexion, Analyse et Action Postcoloniale. Et le programme, c'est Cabaret Rail des années 70, avec mix des DJ Zinazai et DJ Well. Il y aura aussi un buffet et un bar, donc tout ça à prix libre. Ensuite,
c'est où ?
C'est au Bienvenu.
Ah, oui. Rue des Bienvenus, à Villeurbanne.
Voilà. Et dimanche, on vous l'a dit tout à l'heure, à partir de 20h, rassemblement place des terreaux pour être dans la rue, vous savez pourquoi. Et la semaine prochaine, à partir du mercredi...
Parce que
c'est comme ça, on vous l'a dit pendant une heure dans cette émission.
Les gens qui écoutent
À partir du mercredi 10 mai, c'est le début des du festival Mutinerie, qui est le festival des arts militants. Vous avez tout programme si vous tapez Festival Mutinerie. Et aussi, c'est la 12e édition du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient qui s'invite au cinéma Lumière Bellecour pour 4 jours de cinéma documentaire féminin entre l'Algérie, l'Iran et en passant par la Tunisie et la Palestine. C'est ça aussi à partir de mercredi 10 mai au CNP Bellecour, donc. Et puis, alors ça c'est beaucoup plus loin, c'est le week-end du 20 mai, c'est les 40 ans de Radio Canu, donc il faut être là, place Guichard, le samedi, pour introduire ça, on vous passe un super jingle.
Qu'est-ce que c'est que cette connerie ?
C'est le Canu Info. Ah !
Et ça, c'est le super.
C'était notre super jingle.
Alors, c'est pas le jingle des 40 ans, mais on va le trouver.
Alors,
on recommence. Allez, le jingle.
On le lance, c'est fait par les copains d'enfance.
C'est celui du vendredi en plus.
Quel est
à 19h.
Encore notre jingle.
Bon, bah alors, je crois que vraiment.
C'est la jingle blague.
Bah alors, pendant que vous essayez à la technique de trouver le bon bouton, peut-être qu'on peut expliquer que vendredi, il y aura donc.
Un film.
On réessaye.
On réessaye.
Explique.
Donc, vendredi. Il y aura un documentaire qui s'appelle
Lorraine Cœur d'Acier,
qui parle de
une radio militante qui a été mise en place en Lorraine pendant les grèves des années 50,
fin des années 70.
Ah voilà, tu vois,
après la fermeture des aciéries.
Bon, c'est bon, vous avez expliqué, ça va marcher là.
Ils sont tu bafouais un peu là sur la
date. Ça marche.
Attention, ceci est un message auditif à caractère informatif. Cette année, Radio Canu fête ses 40 ans, le 19 et 20 mai de l'an 2017, dans la ville de Lyon. Vendredi 19 mai, ça sera une projection du film Lorraine Cœur d'Acier à l'atelier des Canulars à 20h. Le samedi 20, moult émissions en direct de la place Guichard de 11h jusqu'à 19h. Des discussions, des débats, un bon parti logé, de la musique douce et un open mic avec des micros, le tout retransmis en direct sur le 102.2, la fréquence hertzienne.
J'ai tellement sur vous.
Et le soir, des concerts avec les Chevals Hongrois, viscéralement déviant, Munza, Zona Fini, Daft House, une boom. Ça se passe au dans un lieu tenu secret jusqu'à que ça ne soit plus un secret du tout. Soirée prix libre en soutien à la caisse de solidarité.
Alors c'est plus un secret du tout, ça se passe au Rafio. Il paraît, on va pas donner l'adresse, mais c'est pour celles et ceux qui connaissent, c'est là-bas que ça se passe. Autrement, il y a une adresse, donc c'est 40ans@radiocanu.org.
.org, tout à fait. Mais ça, c'est pas l'adresse du lieu.
Non, c'est l'adresse, l'adresse du lieu. Et sinon, on a fini l'émission, je crois. Donc,
alors, comme d'habitude, on peut retrouver l'émission sur le blog des émissions. Faut taper blog Canu Info dans n'importe quel moteur de recherche pour pouvoir écouter en podcast.
Ou alors sur la première page d'un site qui s'appelle Rébellion. Tout en haut à droite, il y a un petit player.
Il y a le dernier Canu Info.
Peut-être voilà. On va donner une recette de pâte à crêpes bien.
Et voilà, d'ici dimanche et même après, surtout, paniquez pas et niquez tout. Maintenant, c'est Noise Pollution pendant 2 heures.
Youhou.